Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
La jeune fille de 19 ans, originaire de Briançon, s'est rendue au Canada, en Colombie-Britannique, pour voir sa mère. La plage de White Rock, la petite ville où elle habite, offre un panorama magnifique sur la baie de Semianou, l'endroit idéal pour faire son jogging. Ce qu'entreprend joyeusement Cédella Roman. Arrivée au bout de la baie, elle prend une ou deux photos, fait demi-tour, mais prend un autre chemin pour rentrer afin d'échapper à la marée montante. C'est à ce moment-là que deux agents américains en charge de la surveillance des frontières surgissent pour lui apprendre qu'elle est entrée aux États-Unis illégalement et qu'elle est en état d'arrestation. Éberluée, ignorant même que la frontière se trouvait sur le trajet de sa course, n'ayant vu aucun panneau, elle dit qu'elle ne l'a pas fait exprès. Dans le véhicule grillagé où ils la font monter, les agents lui mettent les menottes et la conduisent à 200 km de là, dans le centre de rétention de Tacoma. On lui confisque son téléphone, elle est fouillée, fichée. Chaque jour, ses geôliers lui annoncent qu'elle sortira dans 2 jours, mais le cauchemar semble ne jamais s'arrêter. La jeune fille, raconte Paris Match, qui a approfondi l'histoire, vit dans une grande pièce qui abrite 60 lits superposés et une centaine de migrants, venus d'Afrique et d'ailleurs, enfermés comme elle, pour avoir essayé de passer la frontière. Dans la cour, il y a des barbelés et des chiens. Il faudra 15 jours à l'administration américaine pour libérer la jeune femme et reconnaître son innocence, toute relative, puisqu'elle est désormais interdite de séjour aux États-Unis pendant 5 ans au moins. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, deux autres histoires en mode « Attention où vous faites votre jogging », deux Français emprisonnés à l'étranger qui racontent pourquoi et comment ils s'en sont sortis à Sophie Knapp.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Flora, j'ai 30 ans, je suis paysagiste et j'habite à Paris. Alors, j'avais une amie qui, à l'époque, travaillait chez ACT UP et qui organisait des actions pour les gens qui sont atteints du sida. Et cette fois-ci, le but de l'action, c'était d'aller manifester devant le siège de Novartis à Bâle, en Suisse. Enfin, on venait protester contre un procès qu'avait intenté Novartis, donc le laboratoire pharmaceutique, contre le gouvernement indien, parce que le gouvernement indien fabriquait des médicaments génériques qui coûtaient 150 euros fabriqué par l'Inde, en coûtait 2500 par Novartis. Enfin, en déposant des brevets sur des formules de médicaments, en fait, il privait l'accès aux soins d'énormément de personnes. Donc moi, je n'étais pas militante de l'association, mais elle m'avait demandé si je pouvais participer parce qu'il manquait des gens, et notamment une personne qui puisse prendre les photos et faire les vidéos. Et on est parti à 8, où on devait faire l'aller-retour sur la journée. Donc on s'est mis sur un rond-point, je me souviens qu'on a déroulé la banderole, et puis l'ami qui avait organisé l'action parlait dans un mégaphone, disait des choses aussi très impactantes, courtes. Et puis moi je commençais à tourner autour avec les appareils photos que j'avais pris. Bon, finalement, je ne sais plus combien de temps ça a duré, on a dû faire 10 ou 15 minutes, quelque chose comme ça, et là, il y a des voitures de police qui arrivent, plusieurs, je ne sais plus combien, mais vraiment, je me suis dit, mais c'est pour nous, ça? J'étais vraiment choquée, je trouvais ça disproportionné, et puis on s'est retrouvés chacun avec 2 ou 3 policiers dessus, les menottes et tout, je me suis dit, mais... Et puis les grosses mitraillettes, là, où je ne sais pas ce que c'est, leurs armes, mais... Je ne pouvais pas croire que tout ça, c'était pour nous. Pour moi, je nous voyais comme des agneaux, quoi. Enfin, c'était non-violent comme action. Et donc, on est arrivé au poste de police. Hein, et puis là, on me met dans une sorte de petite cellule avec une femme policière, hein, qui me fait la fouille. Donc je dois me mettre nue. Il faut se baisser. La policière se met derrière. Et normalement, regarde s'il y a des choses en fait, qui sont entrées à l'intérieur, quoi, par les divers trous. Et donc, c'est une posture d'humiliation, vraiment. Donc, je venais d'avoir mes règles. Et tout le monde parlait allemand. Moi, je ne maîtrise pas du tout l'allemand. Comme personne ne me parlait anglais non plus, j'ai fait comprendre. Parce qu'à un moment, il fallait bien que j'enlève cette serviette que j'avais. Et je l'ai enlevée. Et je me disais qu'on allait bien me donner quelque chose. Et en fait, on m'a rien donné du tout. Et toutes les demandes tombaient à plat. Donc après cet examen, disons, là, je me retrouve dans une sorte de cellule. Il n'y a rien. Il y a un lit avec des matelas. Et puis des toilettes séparées par un paravent. Moi, le sentiment que j'avais, c'était vraiment de croupir, en fait, en tout point. J'étais en train de croupir dans mes propres sucs corporels, quoi. Je pouvais pas croire que j'allais rester là. Parce que pour ce qu'on avait fait, ça méritait quand même pas ce traitement. Je me suis dit, je pense qu'en France, ça ne se fait pas. De loin, là, depuis Paris, Bâle, ça me semblait être une ville... à la frontière de la France, donc c'est presque la France après tout. Hein. Et là, en fait, je me suis dit, je suis très très loin de la France. Et puis au bout d'un certain temps, donc, on m'a amené dans un camion. C'était un fourgon avec des cellules alignées et des barreaux. C'était vraiment un cachot ambulant, en fait. Ça sentait très mauvais. Et je crois que j'ai jamais été aussi inquiète. Déjà parce que je voyais rien du tout, il n'y avait pas de fenêtre évidemment. Donc je sentais que ça tournait, que ça s'arrêtait. Et dès que ça s'arrêtait, j'avais vraiment très peur parce qu'il y avait ces deux hommes devant et j'avais l'impression que j'étais à leur merci totale. Dès que le camion s'arrêtait, je me disais mais qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? En fait, j'avais le cerveau qui imaginait tous les scénarios possibles. Je n'étais rien, en fait. J'étais une chose qui était transportée et je me sentais extrêmement vulnérable. J'étais dépossédée de mon corps. Finalement, quand le véhicule s'est arrêté définitivement et que les portes se sont ouvertes et qu'on m'a fait sortir et que j'ai vu que j'arrivais ailleurs, dans un autre lieu, j'étais soulagée de sortir de cet endroit. Et j'arrive dans une cellule qui, cette fois, n'a aucune fenêtre, rien du tout. Et je retrouve ma camarade qui était là et qui était en train de faire une crise de panique. Moi, je prenais sur moi, je me disais, ça va s'arrêter à un moment. Je me disais bien qu'au bout d'un moment, ça allait s'humaniser quelque part. On est resté jusqu'au soir, je ne sais pas quelle heure, puisqu'on ne savait pas trop quelle heure il était. Donc dans cette pièce, il y avait des toilettes séparées par un paravent. Je ne sais plus comment il était, mais c'était ouvert de partout, il y avait des caméras. Je me souviens que le moment d'aller faire pipi a été délicat parce qu'on avait honte d'être l'une devant l'autre. On a bouché les oreilles et fermé les yeux pour se laisser un coin d'intimité, même s'il y avait les caméras et tout ça. Et donc au bout d'un moment très long, on est venu nous chercher, une par une. Et j'arrive dans une pièce, encore sans fenêtre, mais occupée par deux femmes, des gardiennes de prison. Je me suis dit, mais ça ne s'arrête jamais. Donc, pas de français, elles parlent que allemand. C'était vraiment... Elles étaient très, très bourrues. En plus, elles en imposaient physiquement. Et là, encore de nouveau, on me demande de me mettre nue. Et puis, je me suis dit, bah ça y est, là, on va enfin voir que je suis dans un état déplorable. Et puis, quand elles ont vu que l'état de la culotte que j'avais et tout ça... Elles m'ont juste jeté une serviette. Moi, je me sentais vraiment comme un chien ou quelque chose comme ça. Je devais obéir, c'est tout. J'avais aucune marge de manœuvre, rien du tout de possible. Mais finalement, j'avais une sorte de rage de montrer ça. Je me disais, il se passe ça et mon corps, il est vivant et je vous emmerde, en fait. Et là, j'arrive dans un endroit avec des vitres successives. Et là, je vois plein de filles derrière les vitres. Et je commence à me paniquer. Je me suis dit, mais ils sont en train de m'amener dans une prison avec d'autres personnes. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait ces femmes? Est-ce qu'elles sont dangereuses? Et je voyais que les filles, elles étaient regroupées par groupe ethnique. Parce qu'il y avait des Colombiennes et puis des Gitanes. Et donc moi, je me retrouve avec une Gitane de Bulgarie. Et en fait, elle était très gentille, cette fille. Donc elle était très bien. Je sentis qu'elle était bienveillante. On était toutes les deux dans la chambre. C'est là que vraiment l'humanité est enfin arrivée. On ne parlait aucune langue commune. Pourtant, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de mots pour échanger des choses importantes. Sa famille était en Bulgarie et son métier, c'était d'être pickpocket. Donc on a passé la nuit et la journée dans cet endroit. Et puis, on a fait une promenade dehors. Enfin, on tournait en rond dans la cour. Et en fait, je retrouve ma camarade qui était là avant moi. Elle avait toujours un temps d'avance. Et puis là, en fait, la surveillante nous a appelés. Et là, toutes les filles, elles se sont mises à applaudir. Elles ont fait des hurrahs parce qu'on allait sortir. Et du coup, il y avait un pincement au cœur pour ces filles aussi qui restaient là, qui avaient des familles. Et là, moi, j'étais super émue, en fait, parce que... Ouais, c'était quand même un moment de solidarité comme j'ai rarement senti, en fait. Ça s'est fait assez vite, je pense, la sortie. Tout d'un coup, tout le monde parlait français. Donc, bizarrement, hein, je me suis dit bon. Et puis moi, je me souviens que j'ai dit que quand même, c'était des barbares, quoi. Vu que maintenant, je pouvais m'exprimer, je sentais que je retrouvais une dignité aussi. Le simple fait de pouvoir s'exprimer, en fait, remettait les choses en ordre, en quelque sorte. Je me souviens de la conversation avec ma mère pour lui expliquer ce qui s'est passé. Et en fait, je me souviens, je lui ai dit « Oui, maman, j'ai passé 2 jours en Suisse, j'étais en prison. » « En prison ?» On commence à parler, et je lui explique tout ce qui s'est passé. Donc elle dit mais la Suisse, ce n'est pas la patrie des droits de l'homme. » Et en fait, moi, ça m'a fait tilt. Je me suis dit « Mais elle a raison, mais quelle innocence hein. On part faire quelque chose comme ça dans un autre pays ?» La fleur au fusil, c'est un pays riche, mais qui n'obéit pas aux mêmes lois, en fait.
Alors, je m'appelle Xavier, j'ai 33 ans, je suis designer produit. Alors, je suis allé en Croatie, c'était il y a une dizaine d'années, et c'était pour les vacances avec un ami. On avait prévu de faire un tour d'Europe en interrail, donc en train. On était assez insouciants, on est parti avec nos sacs à dos, de quoi faire du camping, en se disant qu'on irait, on passerait par la Croatie pour avoir un peu de soleil, puis on irait en Roumanie voir des bisons, et puis qu'on repasserait par Berlin pour voir des amis et faire la fête, enfin ce genre de truc. Du coup, on est parti. On est arrivé à Zagreb, grand soleil, enfin, on allait pouvoir se reposer, on était contents. Bon, alors on avait ramené avec nous un petit peu de shit, très peu. Et du coup, on s'est dit, on mange un truc, on va fumer un petit pétard, et puis on verra de quoi sera fait l'après-midi. Et du coup, on est allé dans un parc, on a commencé à fumer, puis là, des gens sont arrivés en nous demandant du feu. Je leur ai donné du feu, et en fait, ces gens, c'était la police en civil. Qui nous ont attrapés. Comme c'était moi qui avais le pétard dans la main, en fait, ils m'ont emmené au commissariat. Au commissariat, là, je parais assez rapidement devant un officier de police qui m'interroge, qui m'informe que fumer de la marijuana est un crime en Croatie, passible de, si c'est pas perpétuité, beaucoup, beaucoup d'années de prison. Mais que, étant étranger, normalement, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils gardaient les personnes qui passaient devant un tribunal, qui payaient ou pas une amende, et surtout qui étaient exclues du territoire. Ça allait pas plus loin que ça, en fait. Et ils m'ont demandé, en fait, si je voulais prévenir l'ambassade. Moi, je me suis dit, c'est pas la peine, vu qu'il vient de me dire que j'allais passer 24 heures en garde à vue et qu'après ils allaient me relâcher. J'ai pas vraiment envie que l'ambassade française sache que j'ai des problèmes avec la justice croate qui sont pour moi un petit peu des futilités. Parce qu'en France, ce genre de choses, on se fait attraper avec un pétard dans la rue, les flics l'écrasent, vous font la morale, voire vous laissent repartir avec, quoi. Donc j'étais encore dans cet état d'esprit-là, ça a vite changé. Donc j'ai dit non, on ne prévient pas l'ambassade. Donc ils m'ont dit ok, on va vous ramener à un autre commissariat pour la garde à vue. Là j'arrive à un autre commissariat et j'attends dans une cellule. Et j'attends en fait 24 heures à demander que se passe-t-il. On me répond assez rarement, personne pour parler anglais en fait. Du coup, là, je commence vraiment à paniquer. Au bout de 24 heures à peu près, le traducteur arrive, le procès a lieu. Donc, je me retrouve dans une salle du commissariat où on me dit, voilà, donc c'est un crime, fumé, mais comme vous êtes étranger, on vous demande juste une amende de 500 ou 600 euros. Ça représentait toutes mes économies pour partir en vacances. Donc je fais OK. Les policiers me ramènent en voiture à un distributeur. Ils me ramènent au commissariat. Je donne la somme en liquide. Et là, tous les gens qui étaient là pour le procès se partagent l'argent en liquide devant mes yeux. Sur le coup, j'étais très naïf. Vraiment, ouais, j'avais pas tilté qu'il se passait quelque chose de vraiment bizarre quoi, à ce moment-là. Voilà, on me dit, bon, ben, on va vous ramener à Zagreb pour une autre partie de la procédure. Vous allez être exclu du territoire et après, vous pouvez repartir. Donc là, ils me ramènent à Zagreb. J'arrive vraiment dans un palais de justice et au palais de justice, on me fait attendre, menotter, là, pour le coup. Mais j'étais assez soulagé. Je me disais, c'est juste une procédure. Dans une heure, je vais pouvoir partir. Et puis, tant pis, on va peut-être rentrer, mais... Voilà, ça arrive quoi. Donc je passe devant un juge. Et là, le juge, dit que pendant la durée de l'enquête, je vais être incarcéré jusqu'au procès qui aura lieu à une date qui n'est pas définie. Là, c'est le gros basculement dans ma tête, gros choc. Et j'ai le droit de passer un coup de fil. Donc j'appelle mon ami qui était resté dehors. J'arrive à le joindre, heureusement, et je lui dis, là, je pars en tôle. Mais non, mais tu vas pas partir en tôle. Si, si, là, je vais partir en tôle. Préviens l'ambassade, préviens ma mère aussi. Enfin, voilà. Et puis là, il y a un fourgon qui arrive. On me met dans le fourgon, on me transfère jusqu'à la prison. Voilà. Pendant tout ce chemin, je me fais un petit peu des films, quoi. Je me dis, bon, je vais arriver... Je vais me faire casser la gueule, je vais me faire violer, enfin, ça va être horrible, quoi. Là, ma vie est en train de basculer, je sais même pas combien de temps je vais rester. Je commence à vraiment, vraiment paniquer. On arrive à la prison, et puis là, se passent un peu les schémas qu'on voit dans un film, hein. On dépose toutes ses affaires dans une boîte en carton, on fait un inventaire, on se retrouve nu, on se penche en avant, on tousse trois fois... Les flics vous inspectent un peu partout, voilà. Et là, on était le soir, il était bien 22h, un truc comme ça, et donc il me dit qu'il va me mettre dans ma cellule. Donc là, je me dis, ouais, Xavier, là, c'est le moment de vérité, quoi. Enfin, là, dans moins de 10 minutes, c'est là où tu vas te faire péter la gueule, tu vas te faire violer, tu vas rencontrer des fous, tout ça... Donc prépare-toi, montre que t'es un homme, dès qu'il ouvre la porte et que tu te retrouves face aux autres, tu te laisses pas faire quoi, limite tu rentres dans la cellule, tu casses la gueule au premier qui vient, alors je suis pas du tout, enfin je me bats jamais, donc voilà, mais quand même j'étais du coup dans cette idée-là, donc on traverse les couloirs, c'était la promenade du soir avec des gens qui parlaient en serbe, c'est quand même impressionnant, ça criait partout, on voyait les files de détenus passer et tout, me regarder, moi j'étais avec un pantalon trop large, un t-shirt moulant, et j'avais plus de lacets, plus de ceinture, donc je tenais mon pantalon, c'était très humiliant quoi. Là on arrive devant la porte, il ouvre la porte, je me dis bon ça y est. Thank you. Et là, il ouvre la porte et je tombe sur une armoire à glace qui fait deux têtes de plus que moi, crâne rasé, le mec était aussi large que la porte, habillé en treillis. Je fais « Bonjour ». Là, il parle en serbe, je comprends rien. Il énumérait des langues et à un moment, il fait « Rvatchka, je sais pas quoi, et « Deutsch ». Et je fais « Ah ouais, ça, Deutsch, j'ai fait allemand au collège et tout. Par contre, j'étais vraiment mauvais, j'ai dormi en cours et tout. Et là, le peu que j'avais revient et du coup, on peut échanger quelques mots en allemand. Du coup, on rentre, il y avait une table au milieu avec 6 poires, 3 briques de lait alignées. Et c'était à peu près le seul truc qu'il y avait dans la piole. Et des toilettes dans un état épouvantable. Couverture était trouée, il y avait 6 lits, mais on était 3 dedans. Et donc il y avait Lucas, ce type-là, et un petit vieux dont je ne me souviens pas du nom. Donc je peux m'asseoir sur ce lit. Il fait ouais, vas-y. Donc lui, il commence à me poser pas mal de questions. Je lui raconte, je suis là parce que j'ai fumé un pétard. Il me fait « Oh là là, t'es pas sorti de la berge. » Et voilà, je suis d'accord, super. Donc là-dessus, on se couche. Moi, j'ai pas dormi de la nuit. Hein. Je les entendais ronfler. Et pendant ce temps-là, dans ma tête, ça cogitait dur. Au bout de une journée et demie, je reçois un courrier que j'interprète comme je vais être jugé, donc libéré. Et je crois que c'est immédiatement, en fait, du coup, je suis soulagé. Et effectivement, il y a quelqu'un qui vient me chercher une heure après ce courrier. Sauf que là, on me file une serviette, des tongs, une brosse à dents, un oreiller, tout ça. Et là, je me dis « Ah, merde ». J'ai du mal à comprendre le courrier, ça ressemblait plutôt à « je vais rester longtemps, quoi. Je vais m'établir ici, on me file mon trousseau ». Je monte dans les étages, en gros, ils m'ont transféré vers une vraie cellule, quoi. Donc à nouveau, le stress de sur qui je vais tomber, qu'est-ce qui va m'arriver, pareil, je vais me faire casser la gueule, ils vont me violer, ça va être horrible. On monte les étages, on m'ouvre une cellule, et là, dans la cellule, ils étaient 5 ou 6. Et il me voit arriver, plein d'exclamations en serbe et tout. Et je sais pas comment interpréter ça. Moi, je suis complètement intimidé et j'ai extrêmement peur. Donc, les types se présentent. En gros, il y avait des gens un peu de toutes les nationalités. Il y avait un serbe, un croate, il y avait un gitan, il y avait un espagnol, il y avait un allemand qui me montre mon lit. Et là, la cellule était assez propre par rapport à ce qu'on avait eu. Il y avait la télé, il y avait plein de trucs, des clubs, du jus d'orange. Enfin, vous voyez que c'était un endroit de vie, en fait, pas juste un endroit de passage. Donc voilà, j'arrive là-dedans, ils essayent de me poser des questions, encore pareil, dans toutes les langues possibles. Là, on se rend compte qu'on peut parler allemand ensemble. Voilà, donc pareil, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que t'as un courrier? Je leur montre mon courrier, ils me regardent, ils font « Oh là là, t'es là parce que t'as fumé un pétard, mais t'es vraiment dans la merde ». Voilà. Et entre-temps, en plus, ils me racontent, eux, pourquoi ils étaient là. Alors, l'allemand était là pour un braquage, mais apparemment qu'il l'avait pas commis. Le Serbe, il était là parce qu'il était routier et qu'il avait transporté une tonne d'ecstasy. Arrive le gitan, ils font « Ah bah lui, il est là pour pédophilie !» Là, je fais « Ouah, putain !» Et en fait, ils me font « Mais non, mais c'est une blague !» Ah, ok. Et « Non, je suis là pour trafic. » Bon, bref. Du coup, juste à l'issue de cette conversation, ils me font « Bon, tu pues, est-ce que tu veux prendre une douche ?» Je fais « Non, ça va, je sens pas si mauvais, enfin peut-être qu'on pourra voir ça plus tard. » « Non, il faut que tu prennes une douche et tout, on va aller prendre une douche. » Il demande au gardien « Ouais, il lui faut une douche et tout, donc on y va tous ensemble. » À ce moment-là, j'étais terrifié, quoi. Vraiment, bon, on va faire comme si de rien n'était. On arrive dans une salle, forcément, douche commune en plus, pas de gardien dedans. Là je me dis bon bah ça y est là tu vas passer à la casserole quoi. Bah non en fait on prend une douche en sifflotant quoi. Voilà, je commence à être vraiment rassuré. On boit du jus d'orange en regardant la télé. C'était les Jeux Olympiques. On fume des clopes. Et il y avait vraiment un truc assez accueillant, en fait, malgré tout, quoi. Donc, je commençais vraiment à me dire que j'allais passer plusieurs années dans cette prison, quoi. En fait, le consul est venu me visiter en prison. Donc, à partir de là, tout s'est accéléré, tout s'est amélioré. Le lendemain, en fait, on m'a amené au tribunal. Bon, là, pour le coup, qui avait vraiment l'air d'un vrai tribunal. Du coup, j'ai eu une amende. Et puis là, on m'a exclu du pays. Et en 2 heures, c'était plié. J'étais dans le train pour la France. Ma mère, du coup, m'attendait à la gare. Moi, je me suis fait un peu engueuler, mais pas trop. Donc je suis plus interdit de territoire croate, je pourrais y retourner. Apparemment, c'est quand même un beau pays, ce serait intéressant d'y retourner, quoi. Parce qu'au final, de la Croatie, j'ai vu que les commissariats, la prison, et c'est tout, quoi.
Emprisonné à l'étranger, c'était Les Pieds sur Terre, un reportage de Sophie Knapp réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Flora, Xavier, Jeanne Delecroix, c'est notre attachée de production, et Camille Richir, c'est notre stagiaire.